1.
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter de nouveau le...
Allô, chérie, je m'en viens. À tantôt.
Pour écouter...
Allô, chérie, je m'en
Quand
viens...
Quand on perd quelqu'un, la première chose qu'on oublie, c'est sa voix. Avec votre aide, nous pouvons empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Pour en savoir plus, consultez mad.ca.
Le temps d'un ginto, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h30 à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des gintos et ben du fun, voici ce qu'on te promet pendant une demi-heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
À conduite antisportive, on garde les yeux sur le ballon, sur la balle et ça apoque.
À conduite antisportive, on attaque les ondes profondes.
L'émission est pas finie tant que c'est pas fini.
On vous promet 60 minutes vraiment intenses, sauf pendant la pub.
Conduite antisportive, mardi et jeudi, de 15h à 16h sur les ondes de Chiz 94.3.
Le réveil ce matin? Si t'es à l'écoute, c'est que tu t'évites probablement un cours à 8h30 ou un chiffre matinal au travail. Alors étends-toi, repose-toi et laisse l'équipe de l'Allongée t'accompagner pour ce réveil. Ce matin, on te sert une bonne tasse en compagnie de Félix-Antoine Audet, Édouard Dubois et William Amiot.
À un moment donné, cette émission-là va être complète.
Un jour.
Je sais plus si c'est déjà arrivé, si ça va réarriver un autre moment. Mais Édouard Dubois, qui n'est pas avec nous, c'est bien justifié. Édouard Dubois a une semaine assez remplie. Ouais, et il se prépare un départ bien occupé vers son projet parascolaire, qu'il occupe depuis quelques mois maintenant déjà. Donc on lui souhaite bonne chance aux Jeux franco-canadiens de la communication. Un parcours que nous avons déjà suivi, toi et moi.
Oui, on a suivi les mêmes traces.
Ouais. Ben, tu as suivi mes traces, ouais, disons-le comme ça.
Tu as été mon inspiration.
Si tu savais pour combien de gens ça arrive. Bon, trêve de niaiserie. Non, bien heureux d'être avec vous pour la prochaine heure et demie. Information, actualité, même un peu divertissement, culture avec vous. Savez-vous, je pense, j'ai des idées qui me pop, moi, comme ça. Je veux qu'on parle du Festival d'été de Québec un peu plus tard dans l'émission. Will et moi, probablement avec nos envies, nos désirs d'artistes qui pourraient se présenter sur les plaines. Mais Chiz, radio qui vise évidemment toujours à promouvoir la culture émergente, on va tenter d'essayer d'entrer en contact avec soit notre directeur musical ou notre directrice des arts pour nous parler peut-être de suggestions qui pourraient peut-être se pointer au Festival d'été de Québec à découvrir. Donc on parle pas là, des grandes têtes d'affiches du Festival d'été de Québec. Will et moi, on va y aller avec ça peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais on va essayer d'y revenir. On a beaucoup de choses à mentionner, évidemment. Là, on continue de parler du dossier du hockey junior, ça ne finit pas. Les négociations... ben oui, t'es surpris, toi. J'en ai parlé hier matin, il y a déjà du nouveau. On va parler beaucoup de technologie, que ce soit Spotify, Netflix, TikTok, les influenceurs, YouTube aussi qui s'ingèrent dans le bénévolat pour l'Omnium Banque Nationale. Il y a beaucoup de choses qui se passent ce matin. Mais avant toute chose, évidemment, Radio de l'Université Laval, on s'adresse à vous, chers étudiants de l'Université Laval en particulier. La grève générale des professeurs qui continue d'affecter tout le monde. À quel point es-tu touché, toi, Will?
3 cours sur 6.
3 cours sur 6 quand même. Donc la moitié 50%. De tes cours qui sont arrêtés. Une des choses, c'est Sarah Manzano, l'animatrice des Affamés du lundi, qui en parlait hier, que je trouve très pertinent, que c'est vrai que je le ressens dans ce que j'entends. Vois-tu une certaine flexibilité et une différence dans la façon d'appliquer les règles de la grève entre tes professeurs?
Ben, dans mon cas, pas tant.
Non, okay.
C'est pas mal, on est pas mal tous dans le même bateau de « OK, ben, on se reparle après, puis il adviendra ce que pourra. Les examens, il n'y en aura pas en ce moment. » Fait que, tu sais, on le sait pas. Mais ma blonde, un cours va être dit « on est en grève », l'autre cours, il y a un professeur, on donne l'examen quand même, mais... tu n'as pas accès à toutes les préparations pour l'examen parce que la professeure a oublié de les débloquer. Tu essaies de rejoindre le professeur.
Pas faisable, évidemment.
Infaisable. Fait que tout ce qui est matière d'avant-examen ou, mettons, test de préparation sont pas disponibles, puis il n'y a pas aucun moyen de se préparer.
C'est la partie qui est un peu dérangeante, là. Droit de grève, allez-y, c'est le droit des professeurs, mais il y a comme pas cette stabilité. Il y a des cours avec professeurs qui continuent à avoir leurs examens, d'autres, t'as accès aucunement ni au site, ni à l'examen, ni rien. C'est complètement bloqué, il se passera rien. Puis d'un autre côté, ben après ça, ben c'est ça. Il y a l'examen pareil, mais là, les données sont pas toutes là. Ou les données sont toutes là, il y a l'examen comme si de rien n'était. Ouais. C'est juste que le prof est pas là. C'est cette espèce de flexibilité-là qui est un peu...
Puis, tu sais, on s'entend avoir un examen sans avoir l'accès au professeur. C'est quand même un petit peu... Tu sais, je veux pas dire que c'est n'importe quoi.
C'est handicapant.
Vraiment. Parce que, tu sais, si t'as des questions ou qu'il y a quoi que ce soit, t'as aucune ressource qui est capable de te répondre puis de te donner une piste de solution.
C'est un peu le gros enjeu là, de la situation. Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'une grève générale illimitée du côté des professeurs de l'Université Laval n'est pas impossible. C'est ce qu'on a annoncé là, du côté de Louis-Philippe Lampron, le président du syndicat des professeurs. Cependant, ce n'est que mon humble appréciation. J'ai l'impression que quand tu lis entre les lignes du discours et du SPUL et de l'Université Laval... Ça semble pas se diriger vers là. Ce qu'on dit, c'est que pas mal tout est réglé, sauf l'aspect salarial, de ce que j'en comprends, là. On dit l'aspect normatif est réglé, donc probablement qu'on parle à ce moment-là de la charge de travail et les autres grands enjeux qui préoccupaient les professeurs. Si c'est le cas et que le seul enjeu final, c'est le salaire, comprenez-moi bien, ça risque d'être un enjeu assez touché parce que
on avait quand même des bonnes distances à parcourir de chaque côté.
Ouais,
là.
Ouais, du côté du syndicat des professeurs de l'Université Laval, il y a des bonnes demandes salariales, notamment parce qu'on accuse un rattrapage salarial nécessaire avec les autres universités canadiennes, particulièrement pour les chercheurs ou entre autres. On demandait un rattrapage salarial incluant les hausses qui équivaudrait à 20% de hausse de salaire. Ce qui est quand même gros là, dans toute négociation. Puis honnêtement, c'est une négociation, on s'entend. Ils disent ça, je pense pas qu'il y ait personne au syndicat des professeurs de l'Université Laval qui s'attendent à avoir 20%.
C'est sûr.
Donc, à quel point est-ce qu'un camp ou l'autre va être campé dans ses positions, ça c'est ce qu'il va falloir voir. Mais si c'est seulement le salaire qui reste à voir, je sais pas si ça porte à être inquiet. Il y a une grosse séance de négociation aujourd'hui. Le SPUL risque de se prononcer avec nous sur les ondes des affamés aux alentours de entre midi et 13h, que ce soit le président, le vice-président ou la responsable des communications. Quelqu'un est supposé être avec Azilis Potser ce midi. On va suivre ça évidemment de près. C'est la seule rencontre de négociation prévue cette semaine. Donc, si elle échoue et qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, c'est là qu'on regarde peut-être vers une grève générale illimitée du côté des professeurs.
Ils vont regarder toutes leurs options possibles pour voir qu'est-ce qui va faire avancer notre cause.
Et c'est ça.
Puis si c'est une grève illimitée que ça prend, c'est ça qu'ils vont faire pour faire avancer leur cause.
C'est probablement le cas. La bonne nouvelle pour les étudiants là-dedans, c'est que la semaine prochaine, c'est la semaine de lecture. Donc, s'il y a bien une semaine de plus qu'ils peuvent prendre sans que ça ait trop d'impact sur la communauté étudiante, c'est celle-là. Ils vont pouvoir avoir du temps en masse pour négocier de façon intensive et peut-être arriver à un résultat plus concluant.
Parce que, tu sais, moi aussi, j'amène un dernier point, là.
Vas-y.
En tant qu'étudiant universitaire, on est reconnu comme étant... Ben, pas on est reconnu, mais en fait, tu sais, des études universitaires, là, on va se le dire, ça coûte cher.
Mm-hmm.
Puis le fait que notre session soit autant impactée, oui, c'est 2 semaines, ça peut paraître super court, mais sur 15 semaines, c'est beaucoup.
Ah oui, proportionnellement, c'est quand même important.
Puis on dirait que, tu sais, on paye pour avoir un service d'éducation, pour qu'on soit enseigné par des enseignants, mais en un sens, on est comme laissé à nous-mêmes en ce moment de voir faire nous-mêmes nos apprentissages. En tout cas, moi, j'amène un point là-dessus que je trouve ça un petit peu dommage.
Mais ça nous ramène à une époque forte lointaine, là, où on était 3 autour de cette table-là en même temps.
Édouard qui?
On avait eu une discussion là-dessus sur les grèves, en parlant de la ST Lévis. Est-ce que la grève doit avoir un impact sur les utilisateurs qui négocient pas pour être réussi? Est-ce que, ou non? Puis les 3, on était d'accord relativement à dire... C'est désagréable, mais T'sais, une grève qui a pas d'impact sur l'utilisateur, est-ce que ça va vraiment forcer à main qui que ce soit? C'est un droit, ça amène... Est-ce qu'il peut avoir des abus? Probablement, mais à certains moments, c'est un droit pour une raison. Là. S'il n'y avait pas eu droit de grève, s'il n'y avait pas eu de syndicat, même si ça peut être frustrant, les abus qui peuvent être faits, on va en reparler d'ailleurs dans les négociations avec Sonia Lebel et entre la fonction publique, on travaillerait peut-être encore à une pièce de l'heure dans des mines.
Ouais.
J'exagère, mais vous comprenez le point. Là.
C'est sûr.
Il y a clairement une frustration, mais ça fait partie du principe de grève pour le meilleur et pour le pire. Puis les trois, je pense que c'est un peu ça, j'ai l'impression, en général. Là, ça me fait penser, il y a plein de situations comme ça. Hein, quand tu as l'aspect général, que je te donne une citation vague et neutre, genre le droit de grève est important, même si ça peut pénaliser à un certain moment les utilisateurs.
Ouais.
Mais tout le monde va se dire, ben, tu sais, oui, ça semble simple. Là, je te dis, le droit de grève va faire que tu vas devoir garder tes enfants à la maison pour trouver une solution pendant une semaine parce qu'il n'y a pas d'école.
Ouais.
Oh, ben là, c'est moi que ça affecte. C'est complexe. Même chose, on dit, le système de justice devrait avoir pour but de réhabiliter les criminels. Ah, bah, ouais, tu sais, on veut peut-être plus ça, là. Quand tu regardes aux États-Unis, ça coûte plus cher par prisonnier, il y a plus de récidives, il y a plus de crimes, fait que probablement pas la bonne méthode d'être juste punitif. OK, ça semble bien. Cette personne-là a tué deux enfants, devrait-elle être réhabilitée? Oh! les cas spécifiques, c'est pas mal plus dur d'avoir ces idées vagues-là en tête et de les apprécier. À certains moments, c'est ça le principe aussi. Puis il faut assumer ce qui fait du Québec le Québec. Puis c'est souvent pour le mieux, même si les cas spécifiques peuvent être frustrants. Évidemment. Vous comprendrez que mon but n'est pas d'encourager la réhabilitation de meurtriers d'enfants. C'est seulement le principe de la chose qu'il faut expliquer. On va prendre une première pause sur les ondes de Chiz 94.3. Je pourrais peut-être... Non, on va prendre une première pause.
Oh. Oui.
On va prendre une première pause sur les ondes de Chiz 94.3. C'est Narcisse et Echo qu'on écoute au Chiz 94.3.
Mais va-t'en. Écoutez L'Allongé avec Félix-Antoine Audet, William Amiot et Édouard Dubois.
Édouard Dubois n'est peut-être pas avec nous autour de la table, mais il est avec nous dans la conversation de groupe Messenger. Il amène un point très, très, très intéressant. On attend encore le générique en de production. L'émission produit par William Amiot.
C'est en production.
T'as pris un engagement, William.
Tu as été épaté.
Ça fait longtemps là, que tu es en retard.
Oui.
Je sais pas. Peut-être que si un de tes parents est à l'écoute, tu pourrais te rappeler l'importance d'être à l'heure dans tes engagements. Hein? Wink, wink. Bon, sur ce, vous avez peut-être réalisé que j'étais un petit peu tout croche en partant en pause tantôt. J'ai comme réalisé que je passais à travers une couple d'affaires importantes qu'on était supposé faire en début d'émission. On va donc se rattraper maintenant. Tournée d'actualité avec William Amiot.
Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, se pose en défenseur de l'identité québécoise face aux plateformes numériques qui ont éloigné une partie de l'auditoire des productions locales, et en particulier les plus jeunes. Dans une entrevue accordée au Devoir, il s'est même dit prêt à légiférer pour forcer les Netflix et Spotify de ce monde à mettre les contenus québécois en avant, quitte à se faire accuser d'empiéter dans un champ de compétences fédérales. Rappelons que le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-11 qui forcerait les géants du web à respecter un ensemble de mesures pour promouvoir le contenu canadien. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, se défend de déroger au cadre légal des négociations avec ses forums de discussion qui touchent les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle y voit plutôt une façon de rendre plus performant le lourd processus de renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Ce sont trois forums de discussion en parallèle des tables traditionnelles de négociation qui portent sur des enjeux jugés prioritaires en éducation et en santé, et ce, dans le but de faire avancer les choses plus rapidement. Et c'est terminé TikTok pour les téléphones du gouvernement à Ottawa. On va lire ce matin dans le Journal de Québec qu'un expert en sécurité formé par le FBI craint que l'application de vidéo TikTok ne soit en réalité qu'un outil sophistiqué permettant au régime chinois d'épier les mouvements des citoyens. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'espionnage au Canada de la part de la Chine, comme on l'a vu dans les dernières semaines.
Là, à la circulation, William, y a-t-il une journée internationale du télétravail que je connaissais pas? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Y a-t-il un férié? Honnêtement...
Tout le monde s'en va au jeu de la communication, puis on décide de prendre congé.
Non, mais j'essaie honnêtement de comprendre. Y a rien. Rien. Y a une petite note là, de circulation, on va y venir, mais... Hey. Il ne se passe rien. Rive sud, le Taniata, pas de problème. L'accès aux pompiers à la porte, pas de problème. Capitale presque au complet, pas de problème. Laurentienne-Nord, pas de problème. Henri IV, pas de problème. Charest, pas de problème. Vous comprenez? Je comprends pas.
La capitale, pas de problème? Wow!
Je ne comprends pas. Là, évidemment, petite note. Il y a un léger problème sur Capitale en direction ouest, mais c'est pas le trafic régulier. Il y a un accident. C'est ça qui a un impact là. Une voie sur trois qui à la hauteur de la première avenue en direction ouest sur Capitale, vous allez être ralenti assez significativement là, avant même l'avenue du Beau-Royal. Donc ça c'est à mentionner, mais je comprends pas ce qui se passe. Il y a peut-être un événement quelconque qui échappe à ma connaissance là, mais il n'y a absolument rien à signaler à part ça. Si vous arrivez de Beauport, vous êtes littéralement les seules personnes dans le trafic à matin.
On est-tu rentré un samedi, nous autres?
Ouais, c'est ça. Il y a vraiment quelque chose qui m'échappe. Je comprends pas. Bon, à la météo, William.
On attend une faible neige aujourd'hui. On parle d'une quinzaine de centimètres au courant de la journée. On parle des pourcentages de 90%, donc ça devrait quand même assez tomber. On attend un maximum de moins 7 à moins 5 aujourd'hui. Il fait présentement moins 6 sur la ville de Québec avec un ressenti de moins 15.
Édouard Dubois, là, s'il est à l'écoute, là, t'es le troisième membre de la table, là, t'as décidé de pas rentrer, on n'accepte pas ça. Là. Fait que travaille, puis explique-nous ce qui se passe sur les routes. On va peut-être pouvoir revenir avec ça. J'attends ton résumé dans la conversation Facebook. Bon, là, attaquons-nous à ces nouvelles qu'on n'a pas eu le temps de faire en début d'émission. Tu l'as mentionné un peu plus tôt, les fonctionnaires d'Ottawa et de Québec, parce qu'on s'est prononcé assez rapidement là, du côté du gouvernement du Québec par la suite, ne pourront plus avoir sur leur téléphone mobile l'application TikTok. Probablement qu'on parle à ce moment-là là, des téléphones de travail. J'imagine que sur les appareils personnels, ce ne sera pas nécessairement surveillé, quoi que ce serait à vérifier. Honnêtement, là, c'est tout frais comme nouvelle. On ne le sait pas. Là. Assumons que c'est au niveau des téléphones de travail. Le gouvernement canadien qui l'a vraiment fait en abordant l'aspect de sécurité, d'importance de protéger les informations. Parce que faut le dire, là, bon, la compagnie ByteDance qui a créé l'application TikTok, elle est chinoise, c'est un secret de polichinelle, là, c'est bien connu, c'est même pas un secret. Et en Chine, les compagnies se doivent de partager les informations recueillies, etc., au gouvernement. Mm-hmm. Et comme tout bon réseau social, TikTok regarde les règles protégeant votre droit à la vie privée, puis se dit que c'est vaguement des suggestions plutôt que des règlements. On le sait, c'est le cas avec Facebook, c'est le cas avec Instagram, c'est le cas avec Google en général. Encore une fois, rien de bien surprenant. Mais là, il y a tout l'aspect, évidemment, de le gouvernement chinois est un gouvernement totalitaire qui est en opposition avec l'Occident. Ça crée un autre genre d'enjeu et de sécurité nationale quand il s'agit, ben, évidemment, de données qui peuvent être constituées de secrets du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial qui le fait un petit peu plus de façon délicate en disant ouais. « Bon, on le fait par précaution, il n'y a aucune preuve qui nous amène à croire que c'est quelque chose qui se fait présentement du côté du gouvernement chinois ou de tout autre gouvernement international, mais par précaution, on le fait. » Donc, on ne s'inquiète pas nécessairement des possibilités de la Chine qui espionne les fonctionnaires. On le fait pareil.
En fait, c'est un questionnement qu'on a amené, même par rapport aux autres aussi, mettons les Facebook ou comme tu disais, là, les autres gros sites web ouais. comme Google, qui sont aussi gourmands en termes de données des utilisateurs. Mais c'est plus, comme tu l'as mentionné, eux autres, on donne l'autorisation pour transmettre des données, tandis que chez TikTok, il n'y a pas cette espèce d'autorisation à « je consens à ce que mes données soient... »
Exact. Puis tu le mentionnais là, notamment là, du côté d'une interview dans le journal de Québec avec un ancien agent du FBI, si je ne m'abuse.
En fait, c'est un informaticien qui a été formé par le FBI.
Bon, exactement. Quelqu'un qui a travaillé dans le FBI, excusez-moi. Qui, lui, disait la différence, c'est ça, avec Facebook, c'est que pour avoir accès à ces données-là de la part du gouvernement, ben, il faut une autorisation par un juge. Il faut passer par le système judiciaire, ce qu'il n'y a pas nécessairement du côté de la Chine. Ça se fait comme ça. Le gouvernement veut une information sur tel ou tel. On l'a si TikTok l'a. Donc, c'est cet enjeu-là qui est surveillé. Du côté du gouvernement canadien, évidemment, on suivait parce que les États-Unis avaient pris exactement la même mesure. Quoi. Les membres du conseil, du congrès devaient supprimer TikTok et les membres du gouvernement, fonctionnaires, etc. suivaient. Canada a suivi et par la suite, Québec a suivi Canada. Un bel effet domino qui s'est créé là-dessus. Ce qui pose un peu cette espèce de question-là, est-ce que les particuliers, que William Amiot, que Félix-Antoine Audet, est-ce qu'Édouard Dubois, Megan Asselin, Sarah Manzano, je nomme juste des bénévoles de Chiz, devraient supprimer TikTok de leur cellulaire?
Ben, moi, je suis une des rares personnes de ce que je crois puis de ce que je vois qui n'a pas TikTok à ce jour. Puis honnêtement, que je l'aille ou que je l'aille pas, puis me faire surveiller par la Chine, ça va rien leur donner de me surveiller.
Non, effectivement, William Amiot est une personne profondément inintéressante.
Ben, tu sais, je veux pas dire ça, mais moi, dans mon cas, ça change rien. Je le ferais par solidarité au gouvernement québécois, au gouvernement canadien, de montrer qu'ils ont mon support par rapport à ça, puis que si jamais il y a quête de données de quelconque manière du côté de la Chine, ben, qu'ils auront pas. Mais tu sais, en ce sens que ça va leur donner quoi d'avoir des informations sur moi?
Ben, pis c'est un peu ce que le gouvernement fédéral et provincial a donné comme directive entre guillemets aux particuliers. Ils ont dit, tu sais, c'est une décision personnelle. Si ça peut ouvrir les yeux par rapport aux enjeux de sécurité qui peuvent découdre de ce qui se passe présentement, tant mieux. Mais ils disent qu'il n'y a pas un enjeu de sécurité publique relié aux particuliers. C'est plus un enjeu de vie privée.
Mm-hmm.
Donc, à ce moment-là, c'est probablement le genre de décision qui est prise de la même manière que certaines personnes ne sont plus abonnées à Facebook, Instagram, etc., tous les réseaux sociaux, à cause de cet enjeu de vie privée-là. Mais c'est probablement même les mêmes personnes qui ont intérêt
à supprimer TikTok. Parce que du moment où que tu vas entrer sur un réseau social, tu t'attends à ce que tes informations soient publiques, à ce que tout ce que tu vas partager devienne dans la sphère publique puis qui ne touche plus nécessairement.
Exactement. Donc, à un certain moment, ça ne touche plus particulièrement TikTok ou la Chine. Encore là, évidemment, certaines visions politiques peuvent vous amener à préférer supprimer TikTok plutôt que d'autres, ce qui est tout à fait justifiable. Mais généralement, c'est vraiment une question de comment protégez-vous votre vie privée face à face aux géants du web comme Amazon, Facebook, Google, etc. C'est quoi? C'est la toune de Nicolas Ciccone? C'est-tu le nom méchant? Amazon, Google, Facebook. Il y a une espèce de toune, GAFA. Google, Amazon, Facebook. Vraiment une toune, c'est hilarant.
Toi, la chanson, ça t'a jamais parlé?
Pour le bien-être des oreilles de tous et chacun, j'ai abandonné ce rêve de carrière très jeune qui n'a jamais existé, là, disons-le. Bon, êtes-vous tanné de parler du hockey junior et du hockey en général?
Ben, si on peut en parler en positif, non.
Ça serait le fun, mais ce ne sera pas le cas encore une fois aujourd'hui, vous aurez bien compris. On apprend dans la presse, en fait, c'est la presse qui révèle le témoignage de Gilles Courteau dans la demande d'action collective. Ce qui est parti toute la saga qu'on a présentement, ça part d'une demande d'action collective qui regrouperait plusieurs joueurs. C'est ces affidavits dans cette demande-là qui ont été traduits et révélés par Martin Leclerc, etc., etc. On arrive à où on en est présentement. Je vous parlais hier matin, de la présence en commission parlementaire de Gilles Courteau la semaine dernière. On en a parlé la semaine dernière, évidemment. Comment il disait, on est au courant de rien, il n'y a rien qui est dérangeant, il n'y a rien qui est problématique, j'ai aucun enjeu.
Ça touche pas la Ligue hockey junior du Québec.
C'est ça du tout. On en a parlé hier comme quoi, évidemment, c'est complètement n'importe quoi. Il y a au moins un témoignage, on le sait, affidavit, qui est d'un joueur de la LHGMQ. Il disait, c'est rien de sexuel. Non, il se faisait juste rentrer des doigts dans les fesses avec de la crème analysante chauffante. Il se faisait mettre nu, rasé, pubien, enfermé, nu avec 5 autres gars dans une toilette. Les gars se masturbaient autour de lui pendant qu'il racontait ses anciennes histoires sexuelles. Mais rien de sexuel.
Ben non.
Rien du tout.
Puis, tu sais, dans un autobus, les coachs sont en avant, mais ils sont au courant de rien.
Ben non, c'est ça. Mais là, n'est pas le point. C'est que la presse a ressorti sa déclaration dans la demande d'action collective parce qu'il y a eu à témoigner sous serment. 1er novembre 2021. Il reconnaît qu'au cours de ses 45 années dans la LHJMQ, il y a eu des problèmes liés au bizutage. Si comme moi, vous avez eu besoin d'une petite recherche dans le dictionnaire, bizutage, c'est essentiellement initiation. Ça peut devenir dégradant, ça ne veut pas nécessairement dire, mais là, il dit problème relié aux initiations, en fait. Là. Donc, il dit...
C'est de trouver un autre terme pour ne pas dire « oui, j'étais au courant, mais... »
Peut-être, là, mais c'est vraiment, vraiment très clair que c'est complètement l'inverse de ce qu'il a donné en commission parlementaire comme témoignage. Sous serment, évidemment, c'est ce qu'il a dit, que depuis 45 ans, il y a des problèmes reliés à ça. Quand il disait qu'il n'y en avait aucune idée, il avait vraiment entendu parler de ça du côté de la LHGMQ, que c'était pas vraiment un problème actuellement, mais ça fait 45 ans que c'est un problème. Particulier, et ça continue à chauffer du côté de l'opposition au gouvernement qui continue de demander à ce qu'on rouvre cette commission parlementaire qui a été fermée après quelques heures seulement par la ministre des Sports Isabelle Charest, Vincent Marissal, Pascal Bérubé ainsi que Enrico Ciccone pour le Parti libéral qui, les trois, croient qu'on n'est pas allé au fond de la question, qu'il y a encore beaucoup de choses à mentionner. Enrico Ciccone et Vincent Marissal qui ont envoyé une lettre à Isabelle Charest, pas nécessairement de réponse pour l'instant. On va voir s'ils jugent qu'on aurait besoin de reparler à M. Courteau, voir si soudainement sa mémoire est rafraîchie.
Ben, c'est ça, avec les informations qu'on a, on se dit, coudon, c'est-tu lui qui avait oublié de nous dire des petits sujets ou...
Ah, qui l'aurait cru? Essayer de protéger sa réputation dans une commission parlementaire, ça s'est jamais vu, hein? On va prendre une pause publicitaire et musicale sur les ondes de Chiz 94.3, restez des nôtres.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est le but! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Cheese 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Cheese pour le deuxième service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Cheese 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre, ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
La machine nous fait oublier qu'on est dans la machine.
Il ne voit que le sunshine. Il ne voit que le sunshine. Il ne distingue pas les pleurs de la pluie. Il ne voit que le sunshine. Il ne voit que le sunshine. Il ne distingue pas les pleurs de la pluie.
Hey, check. Il ne voit que le sunshine. Non, mais faut qu'ils appellent. Sauf sur la sunshine. Hey, pas de bling, non, je sais pas, ça sonne cher. Pas une foutue scène, mais une coupe de punchline. Ça fait down, down, down sur leur téléphone. Gauche, 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 yeah, comme si c'était le fun. Mais qu'est-ce qui se passe si la télé ferme? 5G dans la pièce comme un éléphant. Yo, le 1% pour qu'ils se prennent sur le dish. Chilling tant que le bétail est distrait. Il faut tirer sa plug dans leur système. L'engrenage a le bug avec un pixel. One time pour le flight mode. On est dans le même boat, puis le bleu vers l'eau. Ils feront leur plus belle pose. Moi, j'ai caché dans mes lunettes roses.
Yeah, yeah. Il ne voit que le sunshine. Il ne distingue pas. Il ne distingue pas. Il ne voit que le sunshine. Il ne distingue pas. Il est là.
Facebook et Amazon sont les maîtres du monde. Ils nous programment à chaque jour comme des drones, mais personne ne le croit.
Quel beau morceau.
On ne s'aperçoit pas qu'en esclave on se rend.
Oh. C'est, j'adore cette pièce. GAFA. C'est hilarant.
Google, Apple, Facebook et Amazon sont les maîtres du monde.
OK, OK. On apprécie beaucoup Nicolas Chiconet, mais on peut pas s'empêcher de rire quand tu écoutes ce morceau. Il y a pas nécessairement tort, là. C'est juste tellement solennel.
Ben ouais.
Un secret que personne ne se dit. On est malheureusement au courant, c'est ça le pire.
Ben ouais.
Bon, retournons à nos moutons. Commençons tout ça par une tournée d'actualité en compagnie de William Ayo. Nous parles-tu des GAFA, William?
Non, malheureusement.
Fudge.
Ben, un petit peu, un petit peu.
OK.
Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, se pose en défenseur de l'identité québécoise face aux plateformes numériques qui ont éloigné une partie de l'auditoire des productions locales, en particulier les plus jeunes. Dans une entrevue accordée au Devoir, il s'est même dit prêt à légiférer pour forcer les Netflix et Spotify de ce monde à mettre les contenus québécois en avant, quitte à se faire accuser d'empiéter dans un champ de compétences fédérales. Rappelons que le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-11 qui forcerait les géants du web à respecter un ensemble de mesures pour promouvoir le contenu canadien. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, se défend de déranger au cadre légal des négociations avec ses forums de discussion qui touchent les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle voit plutôt une façon de rendre plus performant le lourd processus de renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Ce sont trois forums de discussion en parallèle des tables traditionnelles de négociation qui portent sur des enjeux jugés prioritaires en éducation et en santé, et ce, dans le but de faire avancer les choses plus rapidement. Et c'est terminé pour TikTok pour les téléphones du gouvernement à Ottawa et à Québec. On fait lire ce matin dans le Journal de Québec un expert en sécurité formé par le FBI craint que l'apparition de l'application de vidéos TikTok ne soit en réalité qu'un outil super sophistiqué permettant au régime chinois d'épier les mouvements des citoyens. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'espionnage au Canada et de la part de la Chine, comme on l'a vu dans les dernières semaines.
À la circulation, je suis tout autant flabbergasté que tantôt. J'ai honnêtement aucune explication. J'essaie de comprendre, mais il n'y a rien, là. Absolument pas une miette de trafic ce matin. Si vous avez à faire quoi que ce soit, courir, ben en fait, rouler, là, c'est un petit peu plus ça, là. Il me semble que ce serait pas idéal sinon. Mais il y a rien, rien. C'est vert. À la météo, William.
On attend une belle petite neige aujourd'hui. On parle environ d'une quinzaine de centimètres. On attend un maximum de moins 5 et un minimum de moins 12 aujourd'hui. Demain matin, ça risque d'être une journée à ciel variable. On attend un beau 2 degrés. Il fait présentement moins 3 sur Québec avec un ressenti de moins 15.
7 à 15 centimètres que tu nous disais?
Ben moi, je vois 5, 1 à 3, fait qu'à peu près une quinzaine aujourd'hui.
Ah, oh, Seigneur, que de plaisir. Bon, OK. Pour ce qui est de notre prochain sujet, je veux parler des négociations. Je veux qu'on parle des négociations entre le domaine de la fonction publique et Sonia Lebel, du Conseil du Trésor. J'ai beaucoup de difficultés à comment on aborde souvent ces négociations là de grève, là, que ce soit la ST Lévis, les professeurs, etc.
L'Université Laval.
Ouais, tout ça. Parce que j'ai l'impression que trop souvent, les gens tentent de prendre position sur qui est raisonnable et qui est déraisonnable. Quand dans le fond, on n'en a aucune maudite idée.
C'est vrai.
Il y a personne qui est là. Les syndiqués ne sont pas à table de négociation. Ils se font parler par leur syndicat. La majorité des employés du gouvernement ne sont pas à table de négociation. Il y a quelques négociateurs seulement et le Conseil du Trésor, les haut placés. Après ça, ce n'est que prise d'opinion, dépendamment souvent d'opinion politique, là. On va se le dire. Généralement, il y a des gens qui aiment un peu moins les syndicats que d'autres, puis gardez-le. Ça, c'est 100% correct, là. Mais on le sait-tu juste pas, là? Il y a des fois dans une grève où tout le monde va être du bord du gouvernement, puis finalement, c'est eux qui s'obstinent à rien vouloir changer, puis à rien vouloir faire. Puis des fois, on va être du bord des employés, puis c'est eux qui sont boqués, puis ils ont une tête de cochon tout le long des négociations. On le sait juste pas. Donc, je trouve ça niaiseux d'en parler, puis de parler de tel à tel point, puis tel à telle affaire, puis tel veut faire telle affaire. Fait que pourquoi est-ce que l'autre prend pas telle entente? On le sait pas.
On est qui, nous autres?
Exactement. Puis il y a pas personne qui le sait. J'aimais beaucoup, là, c'est Myriam Segal qui disait on devrait mettre une webcam dans les négociations. Ça irait pas mal mieux, puis tout le monde saurait un peu plus pour qui prendre. Mais là, c'est pas le cas. Donc, je m'abstiens bien souvent d'aller plus loin que de vous donner les informations qui ressortent quand il s'agit de grève, parce que qui sait? Mais je dois avouer que là, je me creuse un peu la tête, là. Je me gratte un peu la tête à essayer de comprendre
une certaine obstination. Peut-être que c'est une obstination. Encore une fois, là, qui suis-je? Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. La Coalition Avenir Québec veut organiser des forums de discussion avec la fonction publique pour faire avancer les négociations. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les négociations sont séparées là, en plusieurs dizaines de tables de négociations pour le domaine de la santé, de l'éducation, de la santé mentale. C'est ça qu'il y a présentement en négociation. Donc, c'est de dire que, par exemple, des préposés aux bénéficiaires affiliés à la CSQ vont négocier à une table, des préposés aux bénéficiaires avec un autre syndicat à une autre, les infirmières de la CSQ à une table, les infirmières de la FIC à une autre table. Vous comprenez le principe?
En tout et partout, là, on parle de 50 tables de négociation.
50 tables de négociation. C'est assez complexe. Merci. L'enjeu, c'est que tu sais, il y a pas mal de choses qui concernent tout le monde en même temps. Ça, on va se le dire, c'est la réalité.
Ben, il y a des sujets généraux, là.
Ben, exactement. Le principe, l'idée de ces forums publics-là, est-ce qu'il y a des craintes par rapport à l'exécution, peut-être, là, du côté des syndicats? Ça, je peux le comprendre. Mais l'idée de ces forums publics-là, c'est de faire avancer les sujets généraux ensemble, sans annuler les tables de discussion privées, les tables de négociation au privé, parce que la loi 37... elle est importante sur les négociations, de dire que les négociations doivent se faire en privé. Ça, même le gouvernement y tient, là. C'est pas seulement du côté des syndicats. Tout le monde veut que les négociations restent privées. Mais le forum public, pour essayer d'avancer collectivement vers quelque part. Après ça, mais disons que c'est une perte de temps totale. Puis c'est vraiment une tactique de négociation de la Coalition Avenir Québec. Ça se peut. Encore une fois, elle le sait pas.
Tant que ça n'a pas
eu. Exactement. Mais le pire qui va arriver, parce que c'est public, là, ces forums-là, le pire qui va arriver pour les syndicats de se présenter, c'est apparent que c'est une joke, que ça avance pas. T'es allé, t'as fait ta part des choses, ben non, on va arrêter d'y aller, ça sert à rien, merci, bonsoir.
Non, c'est ça, exact.
J'ai de la difficulté à comprendre le blocage, parce que les syndicats refusent en bloc d'y aller et refusent beaucoup de commenter. Quelques petits commentaires par-ci par-là, mais on refuse beaucoup d'entrevues, on veut pas vraiment se prononcer sur le dossier. C'est comme difficile de comprendre la position des syndicats. J'aimerais bien là, vous l'expliquer, mais en ce moment, on a très peu d'informations.
Parce que comme tu dis, là, ça pourrait être juste bénéfique pour eux, parce que ça ferait en sorte que nous, en tant que citoyens, on pourrait voir qu'il y a une ouverture de leur côté, qu'ils veulent faire avancer les choses, puis du fait qu'ils n'y aillent pas, ben, ça fait juste nous prouver que c'est peut-être eux qui essayent de mettre des bâtons dans les négociations.
Même sur l'aspect stratégique, exactement comme tu viens de mentionner. Là, c'est parce que c'est important. L'opinion publique, là, même si je trouve ça ridicule parce qu'on le sait pas, l'opinion publique est importante dans des négociations comme ça.
Surtout des négociations avec le gouvernement. T'as pas le choix d'avoir l'opinion publique de ton côté.
Tu sais, si tu penses réellement que le gouvernement niaise, si c'est vraiment ça que tu penses, puis qu'ils veulent juste essayer d'utiliser ça comme tactique de négociation, t'as tout avantage à y aller.
Mais ouais.
Montre-le au grand jour que c'est du niaisage. Tu vas aller chercher de la sympathie du public. Fait que j'ai juste beaucoup de difficulté à comprendre. Il y a peut-être un aspect qui m'échappe. Je suis prêt à garder cette porte-là ouverte, là. Mais je ne vois pas où on veut aller avec ça du côté des syndicats.
Parce que, tu sais, en plus, c'est des forums sur des enjeux prioritaires en ce moment au Québec. Là. On parle de l'éducation, de la santé. Les forums, là, on aurait les trois forums, on parle des équipes de classe, des équipes de soins, puis des équipes de santé mentale.
Oui.
C'est pas mal les trois sujets les plus chauds au Québec en ce moment, qu'on a besoin de faire des avancements, qu'on a besoin d'avancer de part et d'autre.
Puis, même quand t'es du côté des syndicats, y a-t-il quelqu'un qui va me dire qu'ils sont satisfaits de la façon dont les négociations habituelles se sont déroulées puis les résultats qui ont eu de ça dans les dernières années? Je sais pas. Je suis honnêtement curieux. C'est vraiment pas de la frustration ou quoi que ce soit. J'essaie juste de comprendre.
Tout ça pour dire, on est qui, nous?
Exactement. C'est la meilleure chose qu'on pouvait dire. Bon, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, t'en as parlé dans ton bulletin de nouvelles.
Oui, monsieur.
Entrevue avec le Devoir qu'il a accordé, qui s'est sorti aujourd'hui. Et il parle notamment du projet de loi C-11 du gouvernement Trudeau, bon, qui vise les grands géants du web pour aider à promouvoir la culture canadienne.
GAFA.
Google, Apple, Facebook et Amazon. Hey, on se tannera pas de celle-là. Hein. Bon, je pense qu'on pourrait essayer de la faire mettre en jingle. C'est tellement souvent dans les nouvelles, là, ça pourrait revenir régulièrement.
Ça, puis Hockey Québec.
Note à moi-même. OK, tout ça pour dire, le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe, a tenté d'influencer le projet de loi C-11 pour qu'il y ait un amendement particulier au Québec Parce que le projet de loi C11 met en valeur les contenus canadiens dans les géants du web. Il veut qu'il y ait une espèce de vitrine encore plus québécoise quand il s'agit, évidemment, de notre côté. Ça semble pas être accueilli positivement. En fait, il n'y a eu aucune réponse. C'est resté au mort du côté de la réponse du fédéral. Il ouvre donc la porte à une législation supérieure du côté du gouvernement du provincial qui n'irait pas nécessairement en contradiction, simplement complémenter le projet de loi C11. Et j'ai beaucoup aimé la comparaison qu'il fait parce que on voit beaucoup d'influenceurs du web se ranger du côté de YouTube, de Netflix qui se défendent dans les commissions parlementaires du projet de loi C11. Mais j'aimais beaucoup la comparaison pour essayer d'expliquer ça parce que je le comprenais un peu, mais je pense qu'une illustration, une image est beaucoup plus claire, plus souvent qu'autrement.
Une image vaut mille mots?
Ouais, sauf que là, c'est des mots pareils, mon image, fait que ça marche un peu moins. Mais il comparait avec une librairie au Québec.
Ouais.
Plus souvent qu'autrement, là, quand tu rentres dans une librairie, la chose que tu vois en valeur le plus, ce sont des livres québécois, des livres en français. Il y a aussi, bon, les grands succès, là, mais il y a toujours bien en valeur,
dans vitrine,
rapidement dans vitrine, des livres québécois. Il n'y a personne qui t'empêche d'acheter un livre américain. Personne qui t'empêche d'acheter un livre en espagnol, en anglais, en japonais. C'est juste là, de la même manière que tout autre produit, c'est juste qu'on s'assure de mettre bien comme il faut en vision la culture québécoise. C'est ce qu'on veut faire avec Spotify, c'est ce qu'on veut faire avec Netflix, avec Google, Apple, Amazon et Facebook. On veut juste mettre en valeur le contenu québécois.
Ben, tu sais, puis en un sens aussi, on a tellement une belle culture au Québec, on a quelque chose qui est différent de tout ce qu'on retrouve
c'est
ici en Amérique,
du Nord. La culture canadienne, tu sais, oui, a certaines spécificités, mais ça va souvent venir se mélanger, là.
Ben, c'est aussi du fait de la langue. Tu sais, on va être souvent en anglais dans le reste du pays, ce qui fait en sorte que tout ça peut se mélanger. Tandis qu'ici, on est Québécois, on est fiers, on fait tellement des belles productions. Pourquoi pas appuyer ça, puis forcer la main au gouvernement fédéral?
Tu sais, tu regardes les plus grands succès culturels du Canada. Souvent qu'autrement, on oublie qu'ils sont pas américains. Je suis sûr que tu demandes à 9 personnes sur 10 à travers la planète Terre si Justin Bieber est américain ou canadien. Ça va venir souvent te dire que c'est américain. La même chose, tu parles de The Weeknd, tu parles de Nickelback, tu parles
Mais, puis tu sais, tu regardes Ryan Reynolds, qui est dernier, on a vu ça, je pense, sortir hier, qui allait investir pour un méchant gros studio au Canada, pour ne pas oublier ses racines. Ben,
Encore une fois, il y a beaucoup de monde qui doivent être surpris quand ils apprennent que Ryan Reynolds n'est pas américain. Mm-hmm. C'est un peu là où je dis le mix de culture. Tu sais, le succès au Canada, c'est de te rendre aux États-Unis, au Canada anglais. Puis c'est correct, là, je veux dire, la porte est grande ouverte, t'es à côté, c'est bien normal. Mais
le marché est différent aussi.
Au Québec, il y a quelque chose d'unique. Il y a de quoi de beau. C'est différent. Puis il mentionnait notamment les chiffres d'écoute sur Spotify, disant que la chanson québécoise, c'était 8% des écoutes au Québec. Évidemment, là, il n'y a personne qui s'attend à ce que ça devienne 50%. Là.
Non, mais ce qui est le fun, c'est que dans les dernières années, il y a vraiment une effervescence, puis on le voit, l'augmentation, puis on voit qu'on s'intéresse encore plus à notre culture.
Puis c'est de continuer à mettre cet accent-là.
C'est ça, exact. C'est juste de continuer à l'appuyer.
100%. Je veux continuer à parler. Je vous ai dit, on allait beaucoup parler de technologie aujourd'hui, ce matin. C'est une avocate qui a publié sur les réseaux sociaux, sur TikTok, qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour plusieurs créateurs sur cette plateforme-là, qui plagie ouvertement des contenus, souvent dans une autre langue, ne font que le traduire, mettre une petite épice québécoise, puis dire « voici du contenu original créé par moi ». Il y a certainement un incitatif financier, il faut le dire. Si t'as une certaine cote de popularité sur les réseaux sociaux, il y a de l'argent qui peut rentrer. On ne se cachera pas.
On ne parle pas des peanuts.
Non, exactement. TikTok, c'est un peu différent de ce que je semble comprendre au Canada qu'aux États-Unis. Je pense qu'au Canada, il y a pas nécessairement encore l'espèce de programme de créateur qu'il y a aux États-Unis qui fait juste simplement donner de l'argent de la part de TikTok pour créer du contenu. Je pense que ça va venir au niveau là, des commanditaires que tu pourrais avoir, que là, il y a de l'argent à faire. Mais au niveau du simplement créer du contenu, je sais pas si c'est déjà le cas au Canada, mais ça l'était pas il y a pas si longtemps que ça. Mais il y a évidemment un incitatif financier quand même. Ce qui amène donc ce plagiat-là qui pourrait être poursuivi comme atteinte au droit de la propriété intellectuelle. Et ça semble logique et normal, sauf que tu réalises un peu qu'on est en retard. Tout ce qui est technologie, nouvelles technologies, réseaux sociaux, des choses qui semblent évidentes, genre tu ne peux pas copier le travail de quelqu'un d'autre et t'en tirer sans des conséquences judiciaire.
Ouais, mais là, tu regardes maintenant toutes les trends, les tendances sur TikTok. T'as pas le droit de les reprendre parce que c'est la propriété intellectuelle de quelqu'un qui l'a fait le premier.
Faisons la distinction entre un trend, si vous me permettez l'expression, sur TikTok et la création de contenu. Un trend qui est fait pour être reproduit, c'est qui est l'objectif de beaucoup de la plateforme de TikTok. C'est tout à fait normal là, de reprendre ta danse puis de reprendre la danse de Wednesday dans Netflix. Puis ça, c'est correct, là, c'est une chose. On parle plutôt de créateurs, par exemple, humoristiques ou de créateurs de contenu informatif qui vont se faire en anglais puis qui vont être repris par quelqu'un ou l'inverse, comprenez-moi bien. Mais là, on parle de ces cas-là particulièrement du côté de TikToker québécois, de prendre du contenu dans une autre langue, de le traduire, de se l'approprier et de faire semblant que c'est son contenu. Quand il s'agit de sketch humoristique, de la même manière que on a beaucoup parlé de l'humoriste français qui copiait des numéros d'humoristes québécois il y a quelques années de ça. Exactement, ça a fait controverse parce que c'est du plagiat.
Ouais.
De la même manière que d'adapter à une autre langue le contenu humoristique créé sur TikTok, ça devrait être la base, que c'est le droit intellectuel, le droit à la propriété intellectuelle, mais on a tellement de la difficulté à appliquer les bases même de notre société.
Ben, c'est parce que légiférer sur le GAFA, c'est quasiment impossible. Parce que, oui, OK, qui a copié ce contenu-là, mais est-ce qu'on sait réellement que ça vient de l'autre? C'est tellement rendu accessible.
Mais t'as une date, là. C'est quand on parle justement là, de difficulté à légiférer, là, toute la législation sur la culture canadienne et québécoise, du côté de la radio, de la télévision, les quotas que tu dois atteindre, c'est légiféré depuis toujours, depuis tout le temps. Mais ça fait longtemps, tabarouette, que les réseaux sociaux, que Spotify, que Netflix sont là, puis qu'on n'agit pas, puis on n'y pense même pas. C'est jusqu'à tout récemment, le projet de loi C-11, là, c'est ça, là. Voulez-vous me dire que c'est nouveau? Que la culture québécoise et canadienne n'est pas mise en valeur sur les plateformes numériques, les géants du web, que eux n'ont pas à passer par les mêmes demandes que nos radiodiffuseurs, nos télédiffuseurs locaux canadiens et québécois ont à faire. Certainement que c'est pas nouveau, mais on est toujours un peu en retard sur toute la propriété intellectuelle. C'est comme la base de bien des affaires dans notre société. C'est assumé. Mais là, ce que l'avocate dit, c'est que ça va juste prendre une jurisprudence. Il n'y a pas encore de jurisprudence là-dessus. Il n'y a rien qui a été décidé, il n'y a rien de légiféré. On est toujours en retard quand il s'agit des nouvelles technologies. Puis après ça, on est surpris que notre gouvernement continue à faxer quand il s'agit des données en santé. Les nouvelles technologies, ce n'est pas c'est quoi qui terrifie les gouvernements à agir puis à essayer de s'y informer. Mais à un certain moment, là, on peut évoluer, on peut avancer avec la technologie. On dirait qu'on est bloqué, pas à peu près, puis qu'on s'empêche justement d'aller un petit peu plus loin dans des dossiers comme ça. C'est frustrant.
Mais en plus, moi, j'ai fait un travail au cégep il y a à peu près quoi? Il y a 3-4 ans, à ma première session universitaire, sur le fait que les géants du web ne sont pas taxés, ne sont pas... Tu sais, là, on rentre dans une autre ordre d'idée, là, mais... qu'il n'y a pas de légifération par rapport à ça. Puis, ça fait 4 ans, puis on commençait à en parler. Mais les réseaux sociaux, là, ça fait au-dessus de quoi, 20 ans que ça existe? Une quinzaine d'années, mettons, là, que c'est là, puis qu'il n'y a encore rien à faire, il n'y a rien qui est fait, puis on commence seulement à en parler.
C'est particulier. C'est vraiment, vraiment particulier, honnêtement. J'ai bien hâte de vous parler de notre prochain sujet. Ça va aller après la pause, mais je veux un peu vous mettre...
L'eau à la bouche.
L'eau à la bouche, merci, je cherchais l'expression. Comment est-ce que YouTube peut être utilisé pour complètement chambouler la recherche de bénévoles de l'Omnium Banque Nationale? Et ça part du Moyen-Orient. C'est absolument fascinant comme histoire. Restez avec nous, on va aborder tout ça un peu plus tard. Et aussi une triste, mais belle histoire. Savez-vous pourquoi je pense qu'on a le temps? On va l'aborder un peu, là. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui a appris une terrible nouvelle, le petit William, qui a appris que il était atteint d'un cancer. Une histoire très triste, un cancer incurable au cerveau. Une histoire qui a fait les nouvelles la semaine dernière dans le journal. Il n'y a pas grand-chose à faire, honnêtement. Là, la radiothérapie va commencer. Sans ça, les médecins estimaient que William allait pouvoir vivre un mois tout au plus. La radiothérapie va peut-être lui en donner quelques-uns de plus. La famille qui avait déjà perdu leur premier bébé subitement dans son lit en juillet 2018. Une histoire terrible, terrible, terrible. Et là, il y avait tout l'enjeu financier, qui devrait jamais être un enjeu, mais malheureusement, c'en est toujours un. Heureusement que les frais de santé ne sont pas à payer, mais il y a quand même l'enjeu du travail, parce que je vous confirme, pour l'avoir vécu moi-même, là, que quand ton enfant a le cancer, ben, comme parent, tu prends congé. Mm. Tu ne travailles pas, puis les revenus, c'est pas les mêmes. Et là, le directeur et copropriétaire du resto, Richard, a affirmé avoir été touché par l'histoire. Alors, il a accepté de faire une levée de fonds. La plus grosse journée financière de leur semaine, ils vont travailler bénévolement, donc vendredi, et les fonds récoltés, l'argent ramassé, les salaires des employés, tout ça va aller au bénéfice de la campagne GoFundMe pour la famille de William. Il y a déjà plus de 70 000 $ qui avaient été accumulés tout simplement dans le GoFundMe. Une belle, belle touche d'empathie de la part du restaurateur du resto Richard. C'est une histoire qui est triste, mais qui nous montre quand même que, comme société, quand ces histoires-là surviennent, on est capable de serrer les coudes, on est capable de s'aider, on est capable de trouver le plus beau de ce qu'il y a dans les pires situations.
Je ne sais pas si tu en as entendu parler aussi, mais à mon école secondaire, dans le coin de la rive nord de Montréal, il y a eu un autre beau geste aussi qui a été repartagé dans les médias cette semaine. Le Collège Saint-Sacrement qui a fait un beau geste au hockey pour un de ses anciens joueurs qui a justement été atteint par la maladie. J'en parle, j'ai des frissons.
Ah
là,
oui, mais... l'article de Patrick Lagacé là-dessus est absolument
express
incroyable.
Express un jour, express toujours. Là, c'est vraiment... J'ai même pas les mots pour en parler, comment c'est incroyable.
Ah, si vous avez le goût d'avoir quelques larmes aux yeux, là, allez lire la chronique de Patrick Lagacé là-dessus. Là, c'est l'histoire de tout un programme de hockey, de plusieurs programmes de hockey, de plusieurs parents, d'énormément de gens qui se rassemblent pour supporter William, un jeune ancien étudiant, même pas étudiant actuel, pour le supporter à travers son combat contre le cancer, c'est très beau. T'sais, je parle beaucoup en négatif du sport, puis pour moi, c'est la démonstration parfaite de la culture autour du sport, comprenez-moi bien, parce que j'ai fait du sport compétitif longtemps, je suis amoureux de tout ça, de tout ce que ça m'a donné. Je porte encore régulièrement mon insignia des nomades de Montmorency pour tous les beaux temps que j'y ai passé. Mais c'est justement pour ça que je crois qu'il faut se battre contre la culture toxique dans le sport. Parce que ce que ça peut nous donner de beau, c'est hallucinant.
C'est fou, là. Puis, tu sais, la solidarité aussi que ça peut créer entre certains. Puis on l'a vu avec les photos qui ont été partagées. Que, tu sais, même s'il ne peut plus nécessairement jouer au hockey, il y a encore cette fierté-là d'avoir été dans cette équipe-là avec ses amis.
100%.
Qui sont toujours à ses côtés aujourd'hui.
On va prendre une pause publicitaire sur les ondes de Chiz 94.3. Après la pause publicitaire, Simon Kearney, Jean Leloup. Et nous, on se retrouve tout de suite après.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Bonsoir chérie.
Bonsoir.
J'arrive du travail. Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. Ah chérie, j'arrive.
qu'on sort tout court. C'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
C'est le temps de vous inscrire à Force Avenir. Vous êtes engagé dans votre milieu? Participez à un projet qui a des retombées concrètes? Vous êtes un candidat idéal pour Force Avenir qui reconnaît l'engagement d'étudiants comme vous. Au total, une somme de 114 000 $ sera remise sous forme de bourse pour récompenser les lauréats. Pour plus de détails, rendez-vous à inscription.forceavenir.qc.ca ou communiquez avec le service de la vie étudiante de l'université. Les inscriptions se terminent le 31 mars. Bonne chance à tous!
Le basketball du Rouge et Or est de retour sur les ondes de Chiz 94.3. On vous présente le programme double du jeudi 2 mars alors que les équipes féminines et masculines du Rouge et Or sont en demi-finale de la RSEQ. Joignez-vous à nous dès 18h pour le match des femmes contre les Citadins de l'UQAM et à 20h pour le match des hommes contre les Gators de Bishop. Chiz 94.3, la radio officielle du Rouge et Or de l'Université Laval. Écoutez L'Allongé avec Félix-Antoine Audet, William Amiot et Édouard Dubois.
De retour, encore 30 minutes sur les ondes de Chiz 94.3 d'informations et d'actualités. Vous voulez pas manquer ça. Et ça commence tout de suite avec la tournée des nouvelles en compagnie de William Amiot. Mais avant de te laisser commencer, petite note, dernière minute d'actualité. Pour la première fois depuis 5 trimestres, le PIB réel du Canada s'est replié. Donc, on a reculé au niveau de la croissance du PIB. C'est la première fois depuis un bon moment. On attend cette possible récession. Ça pourrait être le début du signe d'une récession. Là, ça prend, je pense, c'est 3 trimestres de suite pour que officiellement on soit considéré en récession. Donc, recul de 0,1% du PIB réel du Canada en décembre. C'est tout sorti, tout frais de l'annonce du gouvernement fédéral.
Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, se pose en défenseur de l'identité québécoise face aux plateformes numériques qui ont éloigné une partie de l'auditoire des productions locales, en particulier les plus jeunes. Dans une entrevue accordée au Devoir, il s'est même dit prêt à légiférer pour forcer les Netflix et Spotify de ce monde à mettre les contenus québécois en avant, quitte à se faire accuser d'empiéter dans un champ de compétences fédéral. Rappelons que le gouvernement Trudeau a déposé le projet de loi C-11 qui forcerait les géants du web à respecter un ensemble de mesures pour promouvoir le contenu canadien. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, se défend de déroger au cadre légal des négociations avec ses forums de discussion touchant les secteurs de la santé et de l'éducation. Elle y voit plutôt une façon de rendre plus performant le lourd processus de renouvellement des conventions collectives des employés de l'État. Ce sont trois forums de discussion en parallèle des tables traditionnelles de négociation qui portent sur les enjeux jugés prioritaires en ce moment en éducation et en santé, et ce, dans le but de faire avancer les choses plus rapidement. C'est terminé pour TikTok. Les téléphones du gouvernement à Ottawa et à Québec. On peut lire ce matin dans le Journal de Québec qu'un expert en sécurité formé par le FBI craint que l'application de vidéo TikTok ne soit en réalité qu'un outil sophistiqué permettant au régime chinois d'épier les mouvements des citoyens. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'espionnage au Canada de la part de la Chine, comme on l'a vu dans les dernières semaines.
Si j'avais rien à vous dire au niveau de la circulation à 8h puis à 8h30, vous pensez que j'ai quoi à vous dire à 9h, là, maintenant? Y a rien. Ça roule. Roule comme sur des roulettes, tout le tralala, toutes les images plates que vous voulez, là. Ça se passe bien. À la météo, Will?
Oui, ça sera pas long. Mon ordi a quand même un petit reboot, comme on dit.
La petite page
Internet a décidé de repartir. Il fait moins 5 présentement. On attend une belle petite neige sur Québec. On parle d'une quinzaine de centimètres qui devraient tomber aujourd'hui, pardon. On parle d'un minimum de moins 7 aujourd'hui. Il fait présentement, comme j'ai mentionné, moins 7 avec un ressenti de moins 14.
Je vous ai vendu ça un peu, cette histoire absolument absurde de devoir changer complètement, de fermer en fait le formulaire de bénévolat pour l'Omnium Banque Nationale à cause d'une vidéo YouTube faite au Moyen-Orient. De qu'est-ce que c'est ça? On apprend ça dans la presse. C'est Guillaume Lefrançois qui nous raconte l'histoire. Ça a commencé il y a 2 semaines, alors que la compagnie qui gère les formulaires d'inscription pour les bénévoles prévient qu'il y a un nombre anormal de demandes qui proviennent du Moyen-Orient. On commence à penser qu'il y a peut-être une cyberattaque. On réalise que les formulaires sont tous bien remplis, donc probablement pas une cyberattaque, à moins que ce soit comme un chat GPT qui remplit des formulaires. Mais tout semble en règle. On finit par se faire avertir du côté des organisateurs du tournoi qu'une certaine vidéo qui circule depuis quelque temps du côté du Moyen-Orient sur YouTube est intitulée « Immigrer au Canada, vous et votre famille, sans aucune condition, par l'entremise du travail au tournoi de tennis de Toronto. » Et la vidéo d'une quinzaine de minutes montre comment s'inscrire pour être bénévole au tournoi. Il laisse entendre que les Canadiens ne se proposent pas en grand nombre parce que c'est un travail non rémunéré, que à part le voyage qui est aux frais du bénévole, c'est une bonne façon de travailler au Canada pour une personne qui a pas de formation, pas d'expérience, qui parle pas français, qui parle pas anglais. Et la vidéo qui a été publié par un YouTuber qui a 590 000 abonnés quand même, a été vu 44 000 fois. Ce qui explique que toute une affluence au niveau des demandes qui ont été faites. Et faut croire que ça n'a pas vraiment de base fondée, là, la possibilité d'immigrer facilement. On apprend qu'en général, là, l'Omnium Banque Nationale a 2, peut-être 3
on
bénévoles.
On parle même d'au maximum 5.
Des bénévoles externes au pays.
Sur les 1300 à 1400 bénévoles là, par tournoi, ben, parce qu'il y a Montréal et Toronto.
Exactement. Donc c'est très très faible. Et selon un avocat qui a été interrogé par Guillaume Lefrançois du côté de la presse, spécialisé en immigration, ça aiderait pas particulièrement ton cas. Honnêtement, ça ne semble pas vraiment aider puisque c'est fait un peu sans intérêt déjà démontré pour le tennis. Faut que pour avoir le visa de travail, ça serait complexe. Mais c'est quand même intéressant parce qu'il a vraiment flairé le fait qu'il y avait un manque de bénévoles à cause de la pénurie de main-d'œuvre, ce qui était le cas dans les dernières années, particulièrement dans la pandémie. On apprend cependant que l'Omnium Banque Nationale n'a plus vraiment ce problème cette année, que ça semblait reprendre bon train. Mais c'est absolument fascinant de voir comment YouTube a dû forcer l'Omnium Banque Nationale à suspendre sa demande de bénévoles parce qu'on comprenait absolument pas ce qui se passait.
Il me semble que j'ai les voix en panique. Là. Ah, on se fait attaquer, cyberattaque!
Ouais. Il y en a un autre qui est en panique, sauf que plutôt que... cyberattaque, c'est pas mal plus... les différents genres, c'est quoi ça?
Les différents genres nous attaquent!
Et vous aurez probablement deviné que je parle de Richard Martineau. C'est ça qui arrive.
J'ai aimé la transition.
Oui, c'est ça, simple et efficace. Non, je parle rarement de chroniqueurs, d'opinions sur nos ondes. C'est une des choses que je m'efforce à faire dans mes veilles médiatiques, dans ma tournée des journaux, à tous les matins, tous les soirs, c'est de lire pas mal tous les chroniqueurs d'opinion de tous les horizons différents qu'on a dans les grands écosystèmes. Là, les grands chroniqueurs d'opinion qu'on voit régulièrement, que ce soit les Pat Lagacé, les Richard Martineau, Sophie Durocher, Karine Gagnon du côté de Québec, tous avec des opinions très différentes. Je pense que c'est important de réaliser que notre façon de voir le monde n'est pas unique, que ces gens-là parlent de la même manière que beaucoup de Québécois pensent et te donner peut-être une vision d'ensemble un peu plus importante. Ça s'applique aussi beaucoup dans ma façon de diriger le département d'information de CHIZ, dans ma façon d'aborder le sujet avec mes bénévoles. Pour moi, c'est important de ne pas être un média qui se veut partisan, mais un média qui se veut, même s'il y a certaines touches d'opinion, on peut pas s'en empêcher. Les médias ne peuvent pas être 100% neutres dans la vie, c'est presque impossible. C'est important d'être capable de donner l'information sans biais le plus possible à nos auditeurs.
Puis d'être informé aussi sur les différents sujets.
Exactement, et les différents angles et les différents points de vue qu'il y a. Donc, c'est rare que je commente, que je sois en désaccord ou en accord, sauf quand il s'agit, par exemple, de chroniques qui ne sont pas nécessairement d'opinion, comme on parlait de celle de Patrick Lagacé qui a été abordée sur nos ondes à propos de la belle histoire du jeune de l'Express de Saint-Sacrement à Terrebonne. Bon. Mais il y a un sujet, là, ça commence à me chicoter depuis un moment. C'est pas juste Richard Martineau, comprenez-moi bien, là. Il y en a plusieurs dont c'est le cas. C'est à propos de l'identité de genre. C'est les mille et une identités qui existent, qu'on peut voir. Et ça se résume bien l'opinion que j'entends souvent dans la chronique de Richard Martineau, à savoir de « je m'y retrouve pas ». Je comprends pas. C'est ridicule parce que moi, je ne comprends pas. Il utilise la métaphore d'un Starbucks. Quelqu'un qui est allé en prison pendant 20 ans puis qui arrive dans un Starbucks pour commander un café. Il dit, voyons, là, il y a du pumpkin spice puis mocha caramel crème fouettée. Voyons donc, c'est-tu possible d'encore avoir juste un café normal? Oui. Voici ta réponse, Richard Martineau. Au Starbucks, tu peux encore avoir un café normal. C'est pas parce qu'il y a plein d'autres options que personne va être fâché après toi de juste prendre un café normal. Bisexuel, bispirituel, agenré, non-genré, non-binaire, ça existe. C'est correct. Si ça te rejoint pas, si tu comprends pas le phénomène, puis t'as de la misère à te l'expliquer, moi, je me fâcherai pas après ça, là. J'ai aucun problème parce que tu as de la difficulté à comprendre. Je comprends que ça peut aller vite, que ça peut être différent, que il a grandi dans une autre époque. La difficulté de comprendre, ça, j'ai aucun problème. Mais de ridiculiser ça parce que tu comprends pas...
Ça revient à ce qu'on disait tantôt dans la chronique. On est qui, nous, juger?
T'es qui? Puis surtout, exactement, comment est-ce que ça t'affecte? Ça change quoi, là? Mettons que toi, t'es quelqu'un qui aime le café, là. Café bien régulier, puis pour une raison qui serait exacte, t'aimes bien les grains du Starbucks, je sais pas, là, de ce que j'en comprends, moi je bois pas de café, ce serait peut-être un peu...
Torréfaction en spécial.
Exactement. Mais t'aimes les grains de café du Starbucks, tu veux juste un café normal. En quoi ça t'affecte que la personne à côté de toi commande un mocha cappuccino frappé, latte, crème brûlée, caramel, 3 push, puis pumpkin spice en plus de ça? En quoi ça t'affecte?
Vivre et laisser vivre.
Et voilà.
On dirait que je fais des expressions
et
au matin.
Laisser vivre. C'est si bien dit. Je la comprendrai juste pas, cette tendance à vouloir ridiculiser et se fâcher.
Ben, je pense pas que c'est. Tu sais, je vais y aller de mon opinion parce que en lisant ça, je comprenais pas. Mais je pense pas que c'est nécessairement pour mal faire, mais c'est plus par besoin de comprendre, besoin de tout savoir, besoin. Tu sais, veux pas ces personnes-là, parce que je connais pas personnellement, mais
ben non.
Il doit être né dans une certaine époque où tout ce qui était liberté par rapport à ça était pas nécessairement accepté, c'était mal vu. Il y avait, tu sais, notre société a fait une belle évolution de ce côté-là, puis on est rendu un peuple qui s'ouvre, qui est capable d'être ouvert par rapport à ça, puis c'est tellement magnifique. Mais quand t'as pas été nécessairement élevé là-dedans, puis toute ta vie, tu t'es fait dire des affaires par rapport à ça, comme « Ah, non, 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 c'est pas bon, c'est ici. Hey. » Veux, veux pas, tu continues un peu cette culture-là à te poser des questions, à savoir pourquoi, à te demander.
Mais ça, j'ai pas de problème avec se poser des questions puis à essayer de comprendre. Cette partie-là, on est tous nés dans des époques différentes. Il y en a qui sont nés avec ça. Nous-mêmes, nous, on n'est pas nécessairement nés avec ça. On s'est développé là-dedans, mais ouais. On est encore jeunes. Puis c'est pas, il n'y a pas eu beaucoup de stéréotypes engrainés là-dedans par rapport à ça. Je comprends la partie de devoir essayer de comprendre puis que c'est pas nécessairement simple. C'est juste la partie de pourquoi faut ridiculiser. Pourquoi pour toi ça semble.
Ben, ça a toujours été ça.
Mais oui, mais.
C'est ça qui est triste.
Comment est-ce que ça t'affecte? Ça changera rien. Vivre et laisser vivre, exact. Je pense que c'est le mot final là-dessus. Ça ne change rien à ta vie. Tu sais, on n'a pas. Ça, au moins, je suis heureux. Là, le débat est plus élevé au Québec et au Canada que ce qu'on peut voir aux États-Unis, là. Quand aux États-Unis, le débat, c'est de croire que les gens deviennent transgenres par plaisir pour avoir certains avantages dans la société. Parler à n'importe quelle personne transgenre, juste voir si elle retire plus d'avantages que de désavantages.
C'est comme l'article de Disney que je t'ai envoyé hier, là, qu'on disait que, en fait, Disney ont appuyé la liberté de ce que tu veux.
Oui.
Puis DeSantis, il a dit « Moi, je suis pas d'accord avec ça, fait qu'on va vous enlever des droits par rapport que vous avez depuis 60 ans. » Ouais. Il a fait une loi parce que Disney se disait ouvert par rapport à ça. En gros, là...
Ben, c'est ça. Donc, le débat est plus élevé au Québec. C'est simplement au niveau de ridiculiser et de moquer quelque chose qu'on ne comprend pas, que j'ai beaucoup de difficultés, surtout quand ça ne nous affecte pas. Personne qui te demande de comprendre, juste de respecter. Ça me semble être la base. On va aller en pause publicitaire. Jérôme Casabon, drôle de rêve sur les ondes de Chiz 94.3.
Je galope d'étoile en étoile sur mon cheval. Je pars avec la lune, rêveuse intersidérale. Cette céleste voisine qui m'apprend les constellations, dont celle de l'homme trompe pas de coups qui se fout des conventions. C'était un drôle. Dans ma tête et mon âme, je gigue dans les dunes comme un raisin dans les vignes. Je plonge dans le divin et je redeviens lucide. Je refais le monde sans guerre et sans famine. C'était un drôle de rêve. C'était un drôle de rêve. Je galope d'état en état dans le nombril. Je sais que je rêve car je n'entends plus de bombes. Je plonge dans un songe qui change le scénario. Et me voilà danseur dans le carnaval de Rio. C'était un drôle de rêve. Tempête dans ma tête. C'était un drôle de rêve. C'était un drôle. Ça ma réalité, si je sautais dans le vide, et si j'étais le vide qui sautait dans le vent, un trou noir dans le ciel, un trou blanc dans le temps, qui redevient enfant, qui redevient le vide, qui redevient vivant. Je galope comme un fainéant et la fée du néant arrive comme un objet non identifiable droit devant. Donc je m'accroche à ses ailes comme on s'accroche à la vie, et soudain je me réveille en sueur dans mon lit.
Vous écoutez L'Allongé avec Félix-Antoine Audet, William Amiot et Édouard Dubois.
9h18, dernier droit dans cette édition du 28 février de L'Allongé. Et on va se faire du fun. On va se faire plaisir. Ça, c'est un des moments toujours les plus fun quand tu fais de la radio à Québec. c'est cette période du Festival d'été de Québec, de supposition sur les artistes qu'on pourrait entendre, qui on veut entendre, nos goûts, le fun. On écoute un peu de musique. J'ai ben hâte de s'attaquer à ce segment-là. Parce qu'on a appris hier, directement de la bouche de l'artiste australien Vance Joy, que la programmation du FEQ s'en vient à grands pas. C'est dans 3 semaines, le 22 mars, qu'on va découvrir cette programmation. Vous avez compris que si c'est le chanteur Vance Joy qui nous l'a annoncé, c'est qu'il nous a spoilé un peu qu'il serait présent de la partie.
Es-tu avec Desjardins, toi?
Non, je ne suis pas avec
pas
Desjardins.
Cette chance-là.
Non, je n'ai pas cette chance-là. Je réussis toujours assez rapidement à avoir ma passe quand même, là, mais je ne suis pas avec Desjardins. Là, si jamais le nom vous dit rien, Vance Joy, ça se peut. Je vous fais écouter son plus grand hit qui l'a fait grandement connaître un peu partout sur la planète. Pas mal sûr que vous avez déjà dû entendre ça sur les ondes d'une radio quelconque ou n'importe où ça joue. Je vous laisse entendre un petit extrait de Riptide de Vance Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Vous aurez probablement reconnu donc cet extrait, le Riptide, qui a envahi les ondes radio pendant bien longtemps. Il sera sur la grande scène des plaines d'Abraham. Il était supposé y être il y a quelques années de cela, en 2020. Il devait jouer entre Jeff Roy et Jack Johnson, Geoffroy et Jack Johnson, excusez-moi, en 2020. Ça a été annulé. Les deux autres étaient déjà revenus, qui s'étaient déjà prévus. Là, et lui revient finalement.
Comment passer une mauvaise journée après avoir entendu cette chanson-là?
Ah, c'est impossible. C'est super sympathique, c'est super joyeux. Alors, j'ai demandé à Will, on va se prêter à l'exercice, d'y aller avec une... Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur les groupes qui pourraient venir au FEC. On est déjà en train de supposer, là, le Blues Fest d'Ottawa a dévoilé sa programmation. On le sait que souvent, on partage plusieurs artistes avec cette programmation-là. Il y a aussi plusieurs autres festivals. On sait à peu près où sont les artistes, à quelle date, s'ils sont proches, s'ils sont loin de Québec. Donc, est-ce que ça ferait du sens qu'ils viennent? Il y a des noms qui sont mentionnés à répétition. Là, évidemment, ce ne sont que des suppositions.
Ouais, exact.
Et un peu de désir et de fantaisie de notre part.
Ouais.
Il y en a qui sont littéralement impossibles, mais on y va quand même. Donc, avec un choix réaliste relié aux rumeurs, je ne suis pas de Québec. Je ne m'en suis jamais caché. Je suis arrivé à Québec il y a quelques années. Et il y a toutes ces histoires légendaires hein, du FEC. Il y en a beaucoup. Les histoires qui ont marqué le Festival d'été de Québec, Metallica, qui a marqué le Festival d'été de Québec, Imagine Dragons, Sous la pluie, qui a marqué le Festival d'été de Québec. Il y a une de ces histoires qui est répétée régulièrement et que je n'ai pas pu vivre. Un groupe que j'apprécie énormément. Et j'aimerais comme vivre ce buzz-là. Il y a une partie qu'on pourra pas répéter là, parce que ça prend un peu de coup de chance de dame nature, mais le concert de quelques minutes seulement de Foo Fighters Sous la pluie, suivi de leur retour pour un concert complet par la suite, ça me semble absolument spectaculaire en entendre parler tellement souvent. Je pense que tu es dans la même situation que moi, Will.
Ah ouais.
On en entend toujours parler de ce fameux concert des Foo Fighters. Et oh, que j'aimerais ça les entendre sur les plaines d'Abraham avec un de leurs succès comme celui-ci. The Best of You des Foo Fighters. il pourrait apparemment se retrouver du côté là, des, du Festival d'été de Québec. Ça fait partie des rumeurs. Ils sont au Blues Fest le 12 juillet. Donc, est-ce qu'on pourrait les revoir? On le sait qu'ils aiment beaucoup Québec. Ils sont tombés en amour avec la ville de Québec. Est-ce qu'ils pourraient donc se joindre à nous?
Tu t'imagines-tu entendre ça dans la pluie encore comme un méchant chou? Ça serait débile.
Ah, ça doit être hallucinant. Toi, de ton côté, Will, l'artiste réaliste là, qui pourrait vraiment être là, que t'aimerais voir.
Ben, en fait, moi, c'est un artiste. Avec, depuis quelques années, on voit que le fait qu'il y ait une émergence de style qui arrive, on veut faire découvrir
différentes
des
choses.
Styles.
Ben oui.
Moi, un artiste que j'aimerais et qui me ferait capoter de voir une danse en ligne, c'est Shania Twain.
Oh!
Ça serait fantastique, tout le monde qui danse. Puis c'est quelque chose de possible parce que je pense qu'elle aussi, de ce que j'ai vu...
Elle est au Blues Fest.
Elle est au Blues Fest. Fait que ça serait juste quelque chose qui se pourrait.
C'est ce que j'aime beaucoup du fait que c'est des artistes, on s'entend là, Shania Twain n'est pas en repeat sur ma playlist Spotify régulièrement. Je pense que c'est le cas aussi pour toi.
Ben, c'est encore
ouais,
drôle.
Okay,
ma
c'est
playlist
encore drôle.
De party, Shania Twain est présente.
C'est bon, mais c'est que c'est des artistes que j'achèterais jamais un billet pour le Centre Vidéotron.
Non,
pour aller les voir.
Mais imagine, là,
ben
tout
oui.
Le monde qui part la danse en ligne.
Je vais être ses plaies, inquiète-toi pas.
C'est
là.
Ça, ça serait débile mental.
Aucune chance que je manque ça. On s'est permis de rêver un peu aussi, là, parce que bon, il y a Green Day qui pourrait être là, Billy Talent, Pitbull, War on Drugs, c'est beaucoup d'artistes qui pourraient être là selon les rumeurs, selon les programmations de groupes un peu partout proches de
dans
Québec.
Dans la proximité. Là.
Mais... ça peut pas nous empêcher de rêver un peu, de la même manière que plusieurs rêveraient un retour de Metallica sur les plaines. On s'y attend pas. Il y a toujours ces espèces de demandes. Je pense que la mienne est loin d'être originale. C'en est une qui est souvent mentionnée. Oh, que je rêverais de voir le grand Eminem sur les plaines d'Abraham. Ah, que ce serait quelque chose de spectaculaire. Pour la soirée hip-hop, là, d'avoir un MMM, je crie.
Ah, ça serait
Je crie au meurtre si c'est dans la programmation. Ça arrivera pas, je le sais, là.
On rêve, on rêve.
On rêve. On est là en train de rêver. Ton rêve est un petit peu plus réaliste que le mien, là. On va le dire quand même.
Oui, en fait, l'année dernière, j'étais allé à deux spectacles. J'étais allé voir Luke Combs puis Maroon 5. Puis Maroon 5 a capoté sur le spectacle. Il disait, OK, moi, je veux revenir l'année prochaine. Les gens du fait qu'ils sont ici, on arrange ça, je veux revenir l'année prochaine. Je veux même qu'on installe une scène qui descend jusqu'à dans le public. Honnêtement, il avait vraiment trippé.
Ça, c'est ce que je trouve beau du Festival d'été de Québec.
C'est débile.
Parce que je m'imagine, là, t'es une méga vedette américaine, là, puis on t'arrête de planifier ta tournée. Là, il doit y avoir des arrêts un petit peu. Tu te dis plate, là. T'es des villes.
Obligatoire.
Un peu obligatoire, mais plus plate. Puis là, tu te fais dire par ton dirigeant de tournée, là, ouais, on va s'en aller dans la ville de Québec. To the north. The very north. Not Montreal. Non, Québec. OK.
Yeah, right.
Puis là, t'arrives devant 100 000 personnes en train de hurler, de capoter à toutes. Tu sais, le début du show, là, parce que j'y étais aussi, là. Maroon 5, c'est un des groupes préférés de ma copine. Je l'ai accompagné, ça m'a fait plaisir, j'ai eu beaucoup de fun. Mais au début, tu le sentais, là. Il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi c'est pas quelqu'un qui aime donner un bon show, le groupe Maroon 5, son chanteur. Puis tu le sentais qu'il s'enlignait un peu comme ça au début, là. Je vais venir faire toutes mes tunes, puis je m'en vais, puis merci, bonsoir.
On va recevoir mon chèque, puis...
Mais l'enthousiasme de la foule...
Ah, c'est honnêtement, là, j'en ai encore des frissons, là.
Il finissait lui-même par capoter, puis à pas comprendre, puis il voulait plus partir à la fin. Puis ça, c'est la beauté pour moi du Festival de Québec, c'est que... Pas grand monde, il y a pas grands artistes qui doivent arriver puis être au courant de ce qui les attend?
Ben, de plus en plus, je pense que le Festival d'été de Québec, il est sur la map.
Oui.
Puis de plus en plus, on attire des gros artistes. Je pense à notamment Luke Combs, qui est une des plus grosses sensations mondiales, qui est venu, puis que jamais dans les dernières années, il serait peut-être venu si c'était pas de toute l'émergence qu'a eu le festival.
Ah oui, il est bien développé, mais pour les artistes individuellement, il y en a plusieurs qui doivent en entendre parler d'un petit peu plus loin, puis pas nécessairement savoir. Là.
Quand t'arrives là, tu dois pas nécessairement avoir d'attente envers le festival, puis de voir ça. À même titre que nous, on n'avait pas nécessairement tant d'attente que ça envers Maroon 5. On se dit, ah, c'est un groupe qui est quand même assez vieux, les musiques peut-être pas nécessairement récentes.
Ça fait partie de la magie du Festival d'été de Québec. Et j'ai déjà hâte de capoter un peu intérieurement en regardant le dévoilement de la programmation le 22 mars. Vous risquez d'en entendre un peu partout, en toutes les radios, dans les prochaines semaines. Là, c'est le moment des suppositions, des listes de rêves et de désirs autour du Festival d'été de Québec. C'est pas mal régulier. C'est une belle tradition aussi pour les animateurs radio de Québec. William, toujours un plaisir.
Partager.
On te souhaite une bonne semaine de lecture. Repose-toi bien.
On se voit demain.
On se voit peut-être
non, c'est
pas.
Vrai.
Peut-être
c'est
pas parce que Rosalie semble être occupée pour l'émission du mercredi matin. Donc, repose-toi bien. Tu l'as bien mérité. On se retrouve mardi dans deux semaines. Pour l'instant, je vous laisse sur une pause publicitaire. Restez avec nous parce qu'à 10h, c'est l'heure des histoires sur les ondes de Chiz 94.3.
Semaine, la semaine prochaine, c'est good. Désolé, j'ai pas d'expérience.